Bonjour cher Xavier, bonjour à tous. Bienvenue sur les chemins du vendredi où cette année encore vous entendrez chaque semaine à ce micro un philosophe ou une philosophe vous parler de son métier. Être philosophe, est-ce un métier d'ailleurs? Ou bien est-ce une vocation? Où commence et comment s'initie l'activité philosophique? Et quel rôle les philosophes doivent-ils jouer dans la cité? Mon premier invité en cette rentrée s'appelle Emmanuel Ecoccia. Il est maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales. Et voici ce qui pourrait ressembler à son portrait sonore.
Qu'est-ce que une chose? Qu'est-ce que telle chose? Qu'est-ce que l'homme?
C'est pratiquement tous les jours qu'il y a des départs de feu.
Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela?
Nous plantons des choux chinois frisés et des fleurs exotiques aux noms imprononçables au fond des bois.
Qu'est-ce qu'au sujet de n'importe quoi?
Tu es inspecteur des colonies? Tu es journaliste? Non? Alors qu'est-ce que tu es?
Bonjour Emmanuel Ecoccia.
Bonjour.
Alors là, on s'imagine que je reçois un nightclubber du Berghain à Berlin. C'est peut-être vrai d'ailleurs et ça ne me regarde pas, on y viendra peut-être plus tard. En tout cas, vous êtes l'auteur de trois ouvrages que j'ai sous les yeux, La vie des plantes, une métaphysique du mélange, La vie sensible et Le bien dans les choses. Trois ouvrages publiés aux éditions Rivage, Bibliothèque Rivage, hein, qui sont disponibles actuellement, toujours actuellement, j'espère, ils sont tous disponibles.
Oui, tout à fait. Oui.
Vous avez entendu plusieurs éléments qui vont nous accompagner tout au long de cette heure, qui vont vous ressembler, je crois, d'autres vous surprendre, et j'ai hâte d'en savoir plus. Vous avez entendu, peut-être l'avez-vous reconnu, la voix de Merleau-Ponty. Est-ce que tu es journaliste? En fait, qu'est-ce que tu es? Comment répondez-vous à cette question? Est-ce que vous répondez philosophe quand on vous demande ce que vous faites?
Et ça dépend des contextes, mais en général, j'ai du mal à répondre, à définir qui je suis, mais je pense que le titre de philosophe, c'est un faux titre au sens que c'est une manière de dire qu'on fait à peu près tout sans en avoir les titres. Mais je me rappelle quand j'ai dû décider à la fin d'un parcours scolaire assez décousu et compliqué de m'inscrire à la fac de philosophie, j'avais très bien dans la tête l'idée que faire de la philo signifiait m'ouvrir à n'importe quelle connaissance. Donc pouvoir adorer, aimer, se passionner de n'importe quelle connaissance, que ce soit la chimie, la physique, la théologie, et sans devoir passer par un diplôme en fait. Et je pense que les philosophes, c'est à peu près ça, c'est une manière de, c'est juste une intensification de la connaissance pour arriver jusqu'aux limites du connaissable au sens pas cognitif, au sens physique presque, au terme existentiel. Mais en laissant ouvert toujours la porte à n'importe quelle autre connaissance. Donc, sans jamais s'accrocher à une discipline. Comment dire? La philosophie, c'est le refus de toute discipline, au sens moral et épistémologique.
Donc, c'est un espace de liberté infinie?
Total, donc hyper angoissant, parce que même dans la vie, aimer tout, c'est un exercice. Les libertins, c'est l'homme le plus angoissé du monde, au fond, parce qu'il est obligé à dire à chaque fois je t'aime. Même si, voilà, et donc recommencer à zéro, mais ça ne peut qu'être ça. Et même d'un point de vue historique, ça serait très difficile de livrer une définition de philosophie. Il n'y a pas un objet commun, si on regarde ce que, aujourd'hui, en Occident ou en France, on désigne comme philosophe. Il y a des livres qui n'ont aucune, comment dire, il n'y a rien en commun, ni les styles, ni l'objet, ni la méthode, rien du tout. On a juste fait un bricolage relativement arbitraire, parce qu'en plus, l'effet qu'un livre soit reconnu comme philosophique, ça change dans les temps, historiquement. Et donc, la leçon à tirer, c'est pas que la philosophie n'existe pas, c'est juste que la philosophie est donc une intensité qui traverse les savoirs à tel moment, à tel endroit, et qui les renverse de l'intérieur.
Donc, la philosophie, c'est un amour des connaissances, un amour sans fin de la connaissance, sous le mode amateur, vous l'avez
sous
dit
les modes, non, pas amateur, sur les modes obsédés, passionnés, c'est pas juste...
Mais sans diplôme, c'est pour ça que je dis amateur, en fait. Vous avez dit, on peut le faire sans diplôme.
Oui, tout à fait. Oui, ouais. Et sans discipline, mais dans le sens que ça, c'est pas une forme de manque ou de négativité, c'est que ça dépasse toute forme de reconnaissance légale ou de reconnaissance sociale, en fait. C'est une obsession pour un savoir qui oblige les connaisseurs à dépasser toute étiquette, par exemple, et toute règle qui se doit face à son propre, à une idée.
D'ailleurs, on le voit de manière très pratique dans vos ouvrages. Vous faites très peu référence à d'autres auteurs. Il y a très peu de citations extérieures ou de passages obligés, alors que souvent dans les essais de philosophie, car ce sont des essais de philosophie, eh bien justement on fait dialoguer des historiens de la philosophie entre eux, des philosophes entre eux. Non, nous, vous écrivez, c'est même pas un narrateur, hein, c'est vraiment un essai, mais c'est votre pensée qui se déploie.
Oui, ça, je crois, pour plusieurs raisons différentes. Tout d'abord, j'ai commencé ma carrière, entre mille guillemets, académique comme philologue. Mon doctorat, en fait, ça portait sur un traité philosophique, mais j'ai fait une édition critique d'un traité du XIIe siècle. Et quand on s'épanche sur ces genres de travaux, on voit bien quelle est la valeur de ce qu'on appelle la citation, la référence. Et on comprend très bien aussi que ce sont, par exemple, les notes en bas de page qu'on considère de manière hyper fétichiste comme la preuve de la vérité, de la valeur d'un discours. C'est quelque chose qui a été inventé après l'invention de la presse et qui correspond au régime discursif de la presse. C'est parce qu'il y a du livre, avant l'invention du livre imprimé, il n'y avait pas de notes en bas de page parce qu'il n'y avait pas de page. En fait, les manuscrits ne permettent pas ces genres de références de cette manière-là. Donc on voit à quel point c'est une forme extérieure du savoir qui n'a rien à faire avec la connaissance en tant que telle. En deuxième lieu, je pense que la philosophie devrait arrêter cet aspect livresque et au final, assez proche de ce que serait le marketing ou le packaging d'un discours. Parce que de fait, lorsqu'on essaie d'effacer quelque chose, ce qui importe, c'est la chose, pas autant ce qu'il a été écrit sur cette chose. À moins que, voilà, on parte d'une idée. Mais non, très très souvent, malheureusement, l'emploi de références bibliographiques est fait juste pour se donner l'autorité, une autorité dont on considère on est être un manque, en fait. Donc, c'est ça le problème. C'est ça la gêne propre des notes en bas de page, en fait. Donc, du coup, je veux pas me donner une autorité que je ne possède pas. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ben, tant pis.
Votre dernier livre, traduit en français, La vie des plantes, une métaphysique du mélange, a connu un succès. Plus même, le terme succès est presque un euphémisme, car vraiment au moment où il est sorti, vous étiez venu en parler à ce micro. Oui. Tout le monde parlait de ce livre, philosophe et non philosophe, et parmi vos lecteurs, se trouve notamment le jardinier et paysagiste français Gilles Clément, que voici.
C'est remarquable parce que ça nous oblige à regarder les choses autrement. Et moi, je m'y retrouve beaucoup parce que j'ai l'impression d'être arrivé à ça sans du tout accéder au raisonnement philosophique, à la nécessité d'un changement de paradigme. C'est juste par le terrain. C'est juste par le jardinage, par le fait que j'ai les mains dans la terre et je voudrais avoir son avis sur Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck. Et puis juste par curiosité, mais ça c'est un jeu, savoir s'il a un jardin.
Le jardinier et paysagiste Gilles Clément sur France Culture, les chemins de la philosophie, en compagnie aujourd'hui d'Emmanuel Lecoccia pour ce nouveau numéro de Profession Philosophe. Gilles Clément, rebondissait sur votre ouvrage, donc La vie des plantes, un ouvrage vraiment passionnant. Vous explorez de manière métaphysique eh bien, le nouveau paradigme à l'œuvre que l'on découvre lorsqu'on observe la vie des plantes. Et il vous pose deux questions. Que pensez-vous de Lamarck? Alors là, bon, c'est peut-être un peu précis, il faut en savoir un peu plus sur vous pour savoir pourquoi c'est important. Et avez-vous un jardin, Emmanuel Lecoccia?
Alors tout d'abord, je suis hyper touché parce que j'ai une admiration énorme pour Gilles. D'ailleurs, je fais cours sur lui souvent. J'enseigne à Sciences Po un cours d'histoire de l'écologie et je consacre une séance à ce qu'il a fait et à ce qu'il a écrit parce que malgré cette...
Oui, lui, il dit en fait, j'ai les mains dans la terre, etc. Je suis pas philosophe.
C'est pas vrai du tout, c'est un des grands théoriciens contemporains, je pense. Les manifestes du tiers paysage est un des grands textes de l'écologie mais mondiale, pas juste qu'en France. Donc, je suis vraiment très, très touché par ce que Gilles dit. Donc, deux questions.
Je précise que vous ne saviez pas qu'on l'avait contacté. On ne savait, non, on savait pas que vous le connaissiez, donc tant mieux. Donc, rapidement, Lamarck et le jardin.
Alors, des jardins, non, je n'ai pas des jardins, mais parce que je fais une vie très bizarre, surtout dans les dernières années. Et tout d'abord, je n'ai pas des jardins, parce qu'à Paris, c'est impossible d'avoir un jardin. C'est quand il faut être richissime, et ce qui n'est pas le cas.
Malgré le succès de votre livre.
C'est pas qu'avec ce genre de livre qu'on devient riche. Et ensuite, je voyage trop pour me consacrer, pour l'instant, à cause de, voilà, des nécessités matérielles, pour me consacrer à un jardin. Mais je voudrais bien, si j'avais de l'argent, je voudrais bien m'acheter un jardin, plus qu'une maison à la campagne. Et ce que je pense de Lamarck, je pense que c'est l'un des grands philosophes, j'employerai ces mots, de la modernité. Et ce qui est intéressant, peut-être même pour prostituer, parce que ce n'est pas une lecture... évidemment, Lamarck, c'est l'un des grands, pas les premiers, mais l'un des premiers à avoir pensé la vie des espèces comme une vie qui passe de forme en forme, où toute espèce est capable de se transformer, de se métamorphoser. Mm-hmm. Mais ce qui est très beau chez Lamarck et qui les différencie de Darwin, à part l'idée de la capacité d'hérédité des modifications acquises, donc ce qui est très beau, c'est qu'il y a une lecture morale de la transformation des espèces et des êtres. C'est-à-dire, il y a cet exemple qui revient souvent dans son œuvre, c'est-à-dire que les canards ont une patte faite de telle manière parce que à force de se forcer de nager avec cette patte, la peau se transforme, la patte se transforme, et donc toute forme animale est le résultat d'un effort, c'est-à-dire au fond d'une volonté, d'un investissement aussi moral. Donc toute forme de vie serait la traduction physique et morphologique, voilà, d'un éthos en fait, ce qui fait de sa vision de la nature quelque chose de absolument extraordinaire. Donc, en face de nous, on aurait de fait les résultats d'un effort qui a traversé les siècles et qui a permis, voilà, par exemple, une fourmi d'être telle qu'elle est, une girafe d'être telle qu'elle est, etc. En traversant à chaque fois des espèces différentes. Ce qui est très important, et de Lamarck et de Darwin, et qu'on oublie toujours, surtout aujourd'hui, dans les débats écologiques, c'est que les deux nous ont livré une idée assez impressionnante de la nature, c'est-à-dire ils nous ont dit que toute espèce est en fait une espèce de bricolage et des formes en travaux et qui ne correspond jamais à une substance. En fait, on a surtout aujourd'hui, à cause du débat autour de la biodiversité, on a la tendance à substantifier et à rigidifier les espèces. On part de formes de vie, voilà, l'humanité ou l'espèce panda ou l'espèce... Et on a oublié que toute espèce naturelle, c'est juste un étrange bricolage éphémère, parce qu'ils sont toujours en train de se métamorphoser à partir de formes qui nous ont précédés, par exemple.
Ça, vous l'expliquez très bien dans votre livre, justement. C'est pour ça que vous appelez ça la métaphysique du mélange, notamment.
Oui.
C'est qu'on est tout en transformation permanente. Avant de rentrer précisément dans vos ouvrages, Emmanuel Ecocci, racontez-nous comment s'est passé ou comment a eu lieu votre première rencontre avec la philosophie. Est-ce qu'il y a eu une expérience qui vous a donné le goût de vous aventurer sur ce terrain?
Oui, plusieurs. Donc, tout d'abord, j'ai eu un parcours scolaire assez bizarre, dans le sens que ma mère, dans un acte de féminisme inconsciente, mais très, très noble, a envoyé ma sœur dans les lycées plus catholiques, privés, hyper chers, locales, donc où on apprenait les grecs et les latins. Et moi et mon frère, j'avais un frère jumeau, il nous a dit dès les débuts, vous n'allez pas faire l'université, il faut que vous appreniez un métier. Et donc... Il m'a envoyé, comment dire, au final, je me suis retrouvé dans un lycée agricole à la campagne, près de là où, pas très près, j'ai dû même déménager chez mes grands-parents pour y aller.
En Italie ou en France?
En Italie, où j'ai appris, au lieu du grec et du latin, j'ai appris la botanique, l'entomologie. Ça, c'est la raison pour laquelle, au bout d'un moment, j'ai écrit le livre. Pas tout de suite, parce qu'à cette époque-là, faire ces genres de parcours scolaires signifiait se rayer socialement, donc avouer à une fille que on fréquentait un lycée agricole signifiait, comment dire, porter à zéro toute possibilité de continuer à sortir, mais même avec un mec. Donc c'était une expérience très très curieuse, même d'un point de vue anthropologique, qui m'a toujours, par exemple, qui a beaucoup compté pour moi, positivement ou négativement, je ne sais pas, parce que je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui appartenait pas à la communauté des savants d'un côté, comme une espèce d'outsider un peu qui venait d'ailleurs. Mais de l'autre côté, comme au final, après, j'ai appris les grecs et les latins par, comment dire, un autodidacte. Donc, du coup, effectivement, mon rapport au savoir que j'ai voulu vraiment, dont j'ai voulu m'approprier, est passé toujours par un désir personnel et pas forcément par la médiation d'une institution scolaire, en fait.
Donc, et c'est pendant ces années d'études-là que vous avez découvert la philosophie?
Donc, c'est pendant ces années-là que j'ai découvert ce qu'on reconnaît aujourd'hui comme philosophie. C'est-à-dire, j'avais, je crois qu'à 14 à 15 ans, j'ai vu dans une, chez un bouquiniste sur la, à la plage, en fait, dans les marches en Italie, Au-delà du bien et du mal de Nietzsche, et qui m'a complètement bouleversé, comme souvent arrive chez les gamins et les adolescents. Après, si j'ai dû faire une conférence là-dessus il y a un an, à Monaco, invité par Charlotte Casiraghi, Robert Mathieu.
Pour les rencontres philosophiques de Monaco, voilà, hein, qui se tiennent chaque année dans la principauté.
Et donc, c'est pas évident ce qu'il m'avait demandé. Tu dois dire ce que c'est la philosophie. Et quand voilà, la même question que vous m'avez posée, et en y réfléchissant, je me suis dit, oui, à part la rencontre, mais que cette rencontre avec Nietzsche avait au fond réveillé une autre expérience très différente et très intime, peut-être, dont c'est difficile peut-être de parler par la voix orale, mais qui est que, en fait, moi, j'avais un frère jumeau qui est mort. Et je dois dire, si je dois identifier une expérience qui m'a fait, ou qui m'est fait encore, toujours, en fait, goûter l'ivresse de la pensée, c'est l'expérience que j'ai face à chaque ou presque photo de mon enfance ou de notre enfance. Parce que même aujourd'hui, en fait, à chaque fois que je regarde une photo quand j'avais un an, deux ans, j'arrive pas à me reconnaître. Mais c'est pas ce qui est absurde, c'est que c'est pas que je peux pas dire c'est moi, c'est que dans cette photo, je peux dire au moins deux fois c'est moi, en fait. Donc, je vois ces deux corps et je peux m'identifier sans problème dans les deux corps. Mais je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, l'impossibilité du cogito, c'est une espèce d'excès des cogito où je peux.
Vous avez deux fois, mois.
Voilà, ou plusieurs.
Sur les quand vous regardez les photos.
Voilà, exactement.
Mais ça a toujours été le cas ou c'est devenu le cas? Parce que petit aussi, vous aviez cette même expérience avec votre frère ou c'est arrivé ensuite en regardant les photos?
Les points, c'est que j'ai compris que cette espèce de tendance à m'identifier, pathologique évidemment, à m'identifier avec n'importe quoi, c'est peut-être voilà, une tendance que j'ai eue dès les débuts, mais qui s'élargissait pas juste aux autres corps ou aux autres individus humains, mais même voilà, avec cette bouteille ou avec ce gobelet, ce microphone. Si je dois dire ce que c'est les prototypes ou les paradigmes de l'expérience philosophique, c'est cette capacité, au fond, de s'identifier avec n'importe quoi, c'est-à-dire de reconnaître à moi partout, dans n'importe quel but de matière, en fait. Donc ça c'est l'intensité maximale de la philosophie, parce que ça veut dire, au fond, reconnaître partout. Techniquement, on pourrait dire ça signifie reconnaître que l'esprit est partout et qu'il traverse la matière dans n'importe quelle portion.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction entre vous et le monde?
Ben non, pas du tout.
Mais qu'il n'y a même pas de moi, en fait. Si moi, c'est le micro.
S'il est à moi, mais c'est moi, se décline et s'articule dans plusieurs formes. D'ailleurs, je veux dire, même si on parle d'un point de vue matériel, cette fenêtre est une partie du monde, mais elle n'est pas détachée du monde. C'est les mondes qui s'expriment de manière intensive dans cette forme-là, à ces moments-là, etc. Mais, comment dire, évidemment, il y a aussi d'autres portions du monde, mais ça ne veut pas dire, lorsqu'on distingue la fenêtre du monde, on ne veut pas dire que cette fenêtre-là n'est pas le monde. Et au même titre, on devait arriver, je pense que la tâche propre de la philosophie, c'est arriver à penser la même chose pour l'esprit, à reconnaître cette espèce de panthéisme, voilà, que tout est divin et tout est sujet surtout. C'est-à-dire, tout est esprit.
Voilà, une autre tentative de définition de la philosophie par quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous, je crois, le voici.
On répète toujours cette vieille question, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Ça, c'est vraiment la forme même de la question non philosophique. C'est vraiment débile. Celle qui m'intéresse à moi, c'est justement cela, comment se rendre la vie possible.
Vous êtes d'accord avec Giorgio Agamben, Emile Lécotia?
Oui, je suis absolument d'accord. Et il en parle normalement quand il dit ça, c'est pour voilà, c'est la morale, comme l'exercice éthique par définition. C'est difficile de commenter, George a compté énormément pour moi. Je l'ai rencontré justement, comme je l'avais déjà rencontré, mais notre amitié explosée ou devenue très forte au moment de la mort de mon frère. Il était très, très, très généreux. Et bon, j'ai été son assistant pendant 3 ans à Venise. Et après, bon, on s'est disputé à un moment, c'est comme tous les grands amis. Et après, on est redevenu très proche, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est tout d'abord, qui a beaucoup compté. Tout d'abord, parce qu'il est un génie.
Giorgio Agamben est un philosophe italien encore vivant et qui est sans doute un des plus grands philosophes italiens de son époque.
Et parce qu'il a été très généreux, c'est quelqu'un qui a un sens de l'amitié immense et transversal en fait. C'est pas... Et parce que, malgré le fait qu'on est rarement d'accord, comme il m'a donné un sens à ce qui a beaucoup compté quand j'étais jeune, l'essence de liberté face à la pensée ou dans la pensée, c'est-à-dire la capacité ou la volonté de penser à partir de n'importe quoi, n'importe où, avec cette capacité qu'il a et qui lui est peut-être qui est l'un de ses signatures les plus élégantes, les plus belles de sa personne, c'est qu'il arrive toujours à marier une puissance de la pensée assez développée, etc., avec une érudition, une capacité de se plonger dans les passés sans les regarder comme passé, en fait, à actualiser le passé philosophique en tant que tel. Donc ça a été très, très important pour moi.
Vous croyez au rôle du maître ou du modèle en philosophie ou du professeur, d'ailleurs?
C'est difficile. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas s'il y a des amitiés philosophiques très importantes. Après, je ne sais pas si c'est vraiment s'il y a des maîtres en philosophie. Et ce qui est, je ne saurais pas donner une réponse véritable à cette question. Par contre, en étant entre guillemets professeur, ce qui m'étonne, c'est, mais ça dépasse la question de la philosophie ou pas. En fait, c'est la puissance de l'enseignement. En fait, la plupart des enseignants se plaignent tous les temps de fait qu'on n'a pas d'argent, les conditions de l'enseignement sont terribles, les étudiants sont terribles,
etc. Et pas vous ? En même temps, vous enseignez à l'EHESS, vous n'êtes pas non plus dans un lycée de Saint-Denis.
Mais ce qui m'a toujours étonné dans l'enseignement, c'est que c'est une mode d'existence de la parole qui est très singulière et très puissante. En fait, donner un cours à l'université signifie que tu vois, surtout aujourd'hui, tu vas 40, 50, 120, 130, 150, ça dépend des contextes, etc. Personnes très jeunes, tu ouvres leur cerveau, tu mets des choses là-dedans et des choses qui ont puissance énorme, en fait. Et le problème, c'est que tu vois pas ce que ces idées que tu mets dans leur cerveau vont faire. Mais chacun de nous a fait l'expérience de se rappeler de la parole. Soit moi, je me rappelle à 30 ans, tu te rappelles d'un mot que ton enseignant de l'école primaire avait dit. Donc, c'est une puissance qui est semblable à celle de la radioactivité.
Ou de la radio tout court.
Ou de la radio, c'est-à-dire une puissance qui dure sur... c'est l'exact opposé du journalisme papier. En fait, le journalisme papier, c'est une puissance énorme, mais qui dure 2 jours après quoi ça disparaît. Alors que l'enseignement, ça s'étale sur 40 ans, en fait, sur 2 générations. Et en fait, les problèmes, c'est que la plupart des enseignants, mais moi inclus, on n'est pas conscient de la puissance des armes qu'on est. C'est comme si on avait des bombes dans notre main, à chaque fois qu'on est dans une salle, et on les considérait comme des bibelots, en fait. Donc, et on a oublié, aujourd'hui, avoir 2 heures par semaine, 120 personnes qui vous écoutent et qui sont obligées à vous écouter et à mémoriser tout ce que vous dites pendant 6 mois, c'est énorme.
Ça vous fait peur ? Énorme.
Aucune personnage de la télé à cet espace. Donc, non, c'est juste qu'on a la tendance à sous-évaluer la force et la puissance de cet espace et de cette parole, en fait, qui peut vraiment changer les mondes, en fait.
Mais ça vous plaît, cette responsabilité?
C'est très beau, c'est magnifique, c'est sublime, en fait. Mais justement, c'est pas une question d'être... j'ai du mal à considérer cette puissance comme la puissance d'un maître. C'est pas... Parce que la question, c'est pas... C'est pas tellement en plus donner du savoir. Là, Kierkegaard avait raison. La question, ce n'est pas transmettre une connaissance, c'est transmettre une puissance, en fait, de connaître éventuellement. Donc, et c'est déclencher, surtout enseigner. Par exemple, là, depuis l'année dernière et cette année, je ne sais pas si ça va continuer, mais je donne des cours d'histoire de l'écologie à Sciences Po. Donc, j'ai en face de moi les futurs Emmanuel Macron et je leur parle d'écologie. Et c'est à chaque fois que je fais ça, c'est en fait, je pose de bombes qui vont pas exploser tout de suite, mais qui peuvent avoir des effets, mais indépendamment de moi, parce qu'en plus, je parle pas de mon, dans ces cas-là, je parle pas de ce que je pense, je raconte ce que les autres ont pensé. Donc, on a une puissance monstrueuse, mais dont on n'exploite pas jusqu'au bout la force.
Quand on s'approche de vous, Emmanuel Ecoccia, et qu'on regarde ce qui est dans votre tête ou près de votre cœur, on entend ceci.
Nous sommes en train d'écouter une pièce de Ricci Hottin qui s'appelle Conception et qui, Ricci Hottin qui a enregistré cette pièce sous le nom de Plastic Man. C'est l'une des grandes pièces, l'un des grands personnages de la musique techno européenne des années 90. Ce morceau est sorti en 94. Voilà.
Qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette musique ?
Tout d'abord, c'est de manière objective, pas juste pour moi. Lui, c'est vraiment l'un des grands protagonistes de cette courante de musique. Et surtout, c'est lui qui a montré presque un premier ou parmi les premiers la puissance psychique ou trans de cette musique. Ce qui m'a plu, tout d'abord, j'adore la musique techno et la musique électro. Ça, c'est les côtés un peu plus commerciaux. Après, il y a des côtés un peu plus expérimentaux ou érudits ou élitistes, etc. Mais ce qui m'est plaît, tout d'abord, c'est lié à une pratique. Avant, vous moquez un peu de moi en disant que j'étais un fêtard. J'ai enseigné pendant 4 ans...
Je ne me moquais pas, au contraire.
Ouais, j'ai enseigné pendant 4 ans à Fribourg, en Allemagne. Et en Allemagne, il y a une culture du club assez développée qui n'existe pas en France, mais pas du tout. Comme il y a un venant d'Allemagne, en arrivant à Paris, tout me semblait un peu ringard. Mais donc là, c'était comme quelque chose d'assez... j'allais au moins une fois par semaine en boîte. Mais parce que ce que j'adore de cette musique, c'est qu'au fond, c'est la musique la moins cérébrale qu'il y ait. Parce qu'il n'y a pas de discours, il n'y a pas de reconnaissance d'une histoire, etc. Et c'est la... Mais c'est une musique qui est capable de par exemple si on l'écoute en marchant d'échanger totalement la texture du monde. C'est une puissance cosmique, c'est même pas psychologique. Il s'agit pas de reconnaître sa vie comme dans n'importe quel tube pop ou dans la musique d'opéra, etc. C'est une musique qui a la puissance de changer complètement l'expérience du monde et la nature du monde, donc et qui démontre donc qu'en fait ce qu'on désigne comme ontologie et ou ce qu'on voudrait ou même fixer comme une série de substances, etc., c'est quelque chose de beaucoup plus fluide et qui tient vraiment à quelques détails sensibles.
De la musique en travaillant?
Oui, j'écoute en fait des tonnes de musique. C'était compliqué que lorsque vous m'aviez demandé quelle pièce ou quel morceau faire passer.
Oui, alors parfois on a le problème inverse. où bah oui, certains invités n'écoutent pas de musique et donc ne veulent pas en parler, etc. Alors que vous avez des propositions.
J'écoute tous les temps de la musique et n'importe quelle, ça va de la musique post-Schoenbergienne jusqu'à au dernier morceau de, je sais pas, de Miley Cyrus, vraiment n'importe quoi. Et quand j'écris, je dois écouter de la musique.
Ah, vous écrivez, oui, vous écrivez en musical.
Je peux pas écrire sans. Normalement, quand j'écris, ça doit être de la musique techno, parce que s'il y a des textes ou un texte que je connais déjà par cœur, donc ça me dérange pas. Mais et surtout, j'ai passé ça. Maintenant, avec une fille, c'est plus compliqué. Mais lorsque j'étais en Allemagne, j'ai passé des nuits entières à regarder des vidéoclips. J'adore les vidéos de.
Ah, les clips des musiques.
Les clips, ouais.
C'est plus difficile d'écrire avec un clip.
Non, oui, c'est pas quand j'écris, mais quand je sais pas quoi faire et je les regarde même une 60e fois en fait. J'adore cette forme d'art en fait d'essayer en 3 minutes ou en 3 minutes 30, ça dure 4 minutes, 5 minutes de donner une voilà de détendre une sensation qui serait limitée à l'écoute d'en faire une expérience visuelle. C'est quelque chose de très très, en plus ça a marqué notre grammaire visuelle de manière majeure et c'est dommage qu'il y ait encore si peu de réflexion autour de cet art en fait.
Et pour vous l'exercice de la philosophie quand vous écrivez par exemple est quelque chose de très spécifique ou est-ce que vous retrouvez comme vous le disiez avant avec cette conception d'un moi qui pourrait être projeté dans d'autres objets ou d'autres objets du monde, justement, avec la musique. C'est-à-dire, est-ce que philosophie et musique, finalement, c'est deux modalités d'un même exercice ou est-ce que la musique vous met dans un état propice à l'écriture ?
Non, c'est la même chose, sauf la musique est beaucoup plus puissante que la philosophie.
Mais c'est la même affaire.
C'est exactement la même affaire. Et les buts, je rêve de pouvoir écrire un livre qui soit proche d'un morceau de musique comme ça, qui est donc un livre qui, une fois que tu le lis ou même si tu l'écoutes, ça change complètement la perception de ta perception du monde, en fait, que les murs deviennent fluides et que les gens qui bougent deviennent des oiseaux, etc. Donc, au fond, si je devais dire, l'expérience de la philosophie, de l'écriture philosophique, ouais, c'est atteindre ce même but. Ça arrive très rarement, parce que, au fond, on a des moyens beaucoup plus pauvres. L'écriture, peut-être, est en général la forme d'art la plus pauvre, à la fois peut-être parfois la plus puissante, parce qu'avec juste un peu d'encre, tu arrives à avoir des effets énormes, mais c'est très dur, en fait.
Et pourtant, vous l'avez choisi. Vous auriez pu faire de la musique, justement, ou autre chose.
Je pense que d'être assez nul. Déjà, pour l'écriture, je ne me répute pas d'être très, très doué, mais pour la musique, je pense être assez nul. Donc, je viens d'une famille relativement pas aisée, donc c'était le moyen le plus économique de produire de la vision ou des expériences différentes du réel. Mais après, je dois dire, avec l'âge surtout, ou avec les temps qui passent, je me rends compte que c'est en absolu les plus durs, physiquement les plus durs. C'est beaucoup plus dur que n'importe quelle autre discipline. Non,
l'écriture.
Comment dire, au fond, l'écriture est une discipline artistique, comme la musique, comme la peinture, comme la sculpture. Mais à cause de sa pauvreté des moyens, et du fait que tu es quand même toujours seul, et vraiment toujours, toujours seul, c'est la plus éprouvant.
J'en déduis que pour vous, écrire un livre n'est pas une partie de plaisir.
Si, c'est le plaisir après, quand tu vois ce qui s'est passé. Mais c'est une expérience physiquement terrible. En fait, c'est comme... écrire, c'est comme ça doit produire une transformation du monde, pas juste de soi. C'est un peu comme, si vous me permettez un peu la métaphore, mais c'est comme faire une expérience, je sais pas, d'une drogue hyper puissante, d'ayahuasca, d'une substance psychotrope majeure, mais vraiment très très puissante, beaucoup plus que la LSD. Mais de faire cette expérience en la rendant reproductible. Donc c'est presque aux limites du possible. Techniquement impossible. C'est comme si tu fais de ce qui se passe quand tu prends une substance psychotrope, mais la rendre accessible aux autres. C'est ça l'écriture, en fait. Avoir des visions. Même quand tu écris un roman, tu as une vision, je ne sais pas, Proust, il a imaginé des trucs de dingue, mais il a été capable, non pas de sortir cette vision de sa tête et de la rendre utilisable par des millions d'autres cerveaux ou corps. Donc c'est pour ça que c'est physiquement éprouvant. Tu sors ce qu'il y a de plus vivant chez toi, en dehors de ton corps.
Pour essayer de sortir ce qu'il y a de plus vivant en soi, à l'intérieur de son corps, et de le rendre accessible aux autres, il y a l'écriture, la musique et aussi le cinéma.
Nous avons 17 ans. La première fois que je vois Georges, je ne le vois pas. Il est en retrait, timide peut-être. En tout cas, rien ne sourd de lui qui le rende visible dans un groupe. Sa candeur apparente est son meilleur déguisement. Et pourtant, Georges est beau comme un... Quand il entre dans une pièce, quelque chose reste suspendu dans l'air. Un jour, nous partons tôt au matin en forêt et nous plantons des choux chinois frisés et des fleurs exotiques aux noms imprononçables au fond des bois.
Quand je serai dictateur, c'est le titre de ce film de Yael André sorti en 2013 et c'est le titre que vous nous avez donné, Manuel Ekotcha, quand on vous a demandé mais quel film a vraiment compté pour vous.
Oui, donc là aussi c'était, je passais des nuits insomniaques pour arriver à quelque chose parce que même pour les films j'en vois beaucoup et c'est difficile de... Parce qu'il y a beaucoup de films qui m'ont marqué quand j'avais 20 ans mais je ne sais pas si je serais capable d'en parler aujourd'hui. Et là c'est les derniers films qui m'ont vraiment... beaucoup, beaucoup touché. C'est un film qui a passé au cinéma du réel en 2014, un an après sa sortie, et qui est très particulier parce que, en fait, c'est un film construit à partir de, des films d'amateurs en Super 8 faits par des familles quelconques dans les années 60, etc. À partir de quelle la réalisatrice, Yael, a construit une série d'histoires qui à chaque fois essaie de décrire un monde possible. Il y a une voix off qui raconte tout d'abord la mort de ce Georges et ensuite des épisodes où à chaque fois on essaie d'inventer un monde possible où Georges n'est pas mort. Et ce qui est troublant, c'est que tout d'abord c'est une réflexion sur les cinémas parce qu'au fond on voit la vie des autres, la vie réelle des autres, mais on la voit une deuxième fois au fond des cinémas. Enrico Ghezzi, un très très grand critique du cinéma italien, avait dit que les cinémas est toujours une deuxième fois, c'est une forme de...
Comment s'appelle-t-il ?
Enrico Ghezzi, c'est l'un des grands personnages de la télé du cinéma italien, parce qu'effectivement, aller voir un film, c'est revivre une histoire qui s'est passée déjà en face de la caméra.
Donc, c'est ce que dit Stanley Cavell du cinéma aussi dans la projection.
Et ce qui est intéressant, c'est que tout d'abord, ouais, le cinéma est ça, mais même au fond, la conscience c'est ça. Chaque fois que la conscience c'est... Ou le fait d'avoir conscience, c'est le fait de devoir s'approprier d'une expérience qui n'appartient forcément pas forcément à toi. Voilà. Maintenant, je vis, mais ce que je vois, ce que je vis, c'est une partie du monde et je dois m'identifier à ce que je vis. En fait, avoir une conscience signifie ça, signifie avoir une espèce de distance par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on voit, etc. Donc, elle est arrivée à capter ce qu'il arrive à chaque fois qu'on dit. J'ai fait l'expérience d'eux. Et de l'autre côté, c'est ce qui est très profond et très beau dans un film, c'est que dans ce film et dans les cinémas aussi, c'est que cette deuxième fois, où le fait de revivre en vie ne signifie jamais, ni dans les cinémas, ni dans la vie, dans notre vie quotidienne, être cloué à un destin. En fait, la beauté du cinéma, ou la beauté de ces films, au fond, c'est très l'omniscience, c'est qu'il renverse... Des morceaux de vie et de monsieur et madame Dupont des années 50 dans une vie possible future. Et au fond, c'est ce qui se passe dans la conscience, mais c'est ce qui se passe même biologiquement. On oublie que même, ou on ne se rend pas compte que toute vie est la répétition de vie intérieure, et toute vie est la tentative de remettre dans la modalité du possible ce qui était dans la modalité de, même génétiquement, au fond, nous sommes génétiquement, qu'est-ce que moi je suis, l'étrange tentative de faire revivre la vie de mon père et de ma mère, mais dans quelque chose qui change complètement leur destin. Je suis ça, génétiquement
vous en êtes père. Sûr.
Mais c'est pas que je suis sûr, c'est génétiquement, je suis l'étrange, les sexes, c'est ça. Comment dire,
pas leur vie, c'est que vous héritez de leurs gènes en commun.
Mais
vous ne revivez pas ce qu'ils ont vécu.
Je dis biologiquement, C'est ça, c'est le même. On a tous exactement les mêmes. Comment dire? Moi, je suis à moitié mon père et à moitié ma mère. Et ce qui se passe biologiquement, c'est que ces gènes qui ont déjà vécu une fois vont se répéter et vont, comment dire, trouver du possible, vont reconvertir ce qui s'était passé dans un nouveau possible qui est ouvert à tout et à n'importe quoi. Et toute fille, en fait, qui sait pas tout.
L'héritière de la précédente et de toutes les précédentes, alors.
Mais l'héritage, c'est exactement le contraire de ce qu'on imagine dans les doigts. L'héritage n'est jamais ce qui nous fixe à un passé acté, déterminé. Hériter quelque chose signifie changer des modalités, changer ce qui était dans la modalité du nécessaire, dans la modalité du possible. Hériter du passé signifie obliger les passés à se rouvrir au présent. C'est pour ça que, voilà, le fait que, par exemple, on dit toujours, c'est un discours un peu ridicule, mais qu'on a oublié le cétard de l'héritage, on a oublié le... Ou c'est pour ça que c'est compliqué lorsqu'il y a une coupure de la tradition, comme aujourd'hui. Parce qu'une coupure de la tradition, c'est pas une coupure de choses solides, c'est une coupure du possible. Lorsqu'il n'y a pas de tradition, il n'y a plus de possible, en fait.
Dans quelle mesure est-ce que votre vision du monde, d'un point de vue philosophique, est déterminée par votre expérience de la gémellité?
Ah, et oui, c'est ce que je disais avant. C'est difficile de... Moi, je dirais, c'est que ça. Mais j'ai jamais vécu dans les corps d'un non jumeau. Donc, c'est compliqué de comprendre ce que ça veut dire, n'est pas avoir eu des jumeaux, un jumeau, ou des jumeaux, des jumelles. Mais j'ai l'impression que, voilà, c'est ce que je disais avant, c'est-à-dire que ce qui est, tout d'abord, d'un point de vue strictement personnel, au-delà de la philosophie, ce qui est très beau, ce qui est à la fois les trésors, mais la malédiction aussi de passer par une expérience de ce type, d'avoir un jumeau, c'est que tu fais l'expérience d'une intimité extrême et profonde et non empirique, comment dire, presque transcendantale avec un autre être, mais tu l'es fait avant n'importe quelle expérience, avant n'importe quel parcours. Tu es proche de quelqu'un, mais sans que cette proximité ou cette intimité soit les résultats d'une construction très chiante, hyper longue, qui passe par des disputes, des silences, des éloignements, des rapprochements. C'est la forme de la relation avec l'autre. Et ça a été hyper compliqué pour moi, s'il y a encore, de comprendre que voilà, la forme des relations avec les autres n'est pas cette intimité, que cette intimité, c'est les fruits cachés, parfois éphémères d'un rapport. Donc ça, c'est, entre autres, c'est la chose la plus belle que la gémellité te donne. Après, au-delà de ces vécus sentimentaux, la gémellité, c'est une manière de, au fond, de ne pas partager les moi, ou de retrouver un moi qui est beaucoup plus... ou de, au moins, avoir les doutes que ce qu'on considère les plus privés, les plus intimes, les plus à toi, c'est-à-dire le fait d'être un moi en conscience, en fait, n'est pas du tout privé. C'est la chose, au contraire, la plus commune au monde, en fait, qui est ton propre moi et les moi de tous, en fait. Et qui est donc, en toi, il y a... Parce que faire l'expérience d'un jumeau, ou faire l'expérience à chaque fois que je suis face à une photo de mon jumeau, donc tu te dis, ah mince, donc... Il y a un corps qui est identique à moi, en face de moi. Donc, du coup, voilà, où est-ce que c'est les limites du moi, du non-moi, etc. Et je pense que, de fait, l'expérience, mais c'est même pas philosophique, l'expérience de la pensée ne peut qu'être une expérience de ce type-là, c'est-à-dire de dépasser nos propres limites et à la fois d'arriver à faire dire moi à n'importe quoi et à la fois arriver à dire moi-même, nous, dans n'importe quoi. En fait, au fond, être savant, comprendre quelque chose, signifie s'identifier parfaitement, au moins dans la pensée, avec quelque chose. Donc, retrouver une expérience de la gémellité avec voilà, les autres, mais aussi les objets. Dans les cas, par exemple, un romancier, c'est ce que d'ailleurs Flaubert dit clairement. En fait, être un romancier signifie... L'est dit dans une lettre très belle, être un romancier signifie pouvoir être évidemment n'importe quel personnage, donc tu fais l'expérience de la gémellité avec n'importe quel personnage, mais aussi avec les chevals, les fleurs que tu décris. En fait, tu es ça. Et ça, c'est peut-être l'ivresse et la joie et la jouissance la plus profonde qui nous est donnée. C'est pour ça que c'est beau écrire, parce que c'est difficile d'y arriver sans ça. Ou bien tu y arrives, mais tu peux pas la répéter. Donc tu n'es pas maître. Alors qu'avec l'écriture, parfois tu arrives à maîtriser cette expérience.
Vous avez des rituels pour écrire ?
Oui, mais ça marche jamais. La chose absurde et la chose très incroyable de la philosophie d'un côté et de l'écriture en général, c'est qu'on ne devient jamais expert. En fait, une chose, par exemple, moi, je déteste parler en public. Là aussi, je déteste parler. Ben, heureusement qu'il n'y a pas de public, etc. Mais quand j'enseigne, je me mets dans des conditions psychologiques extrêmes. Et je pensais, bon, après 10 ans, 15 ans que tu enseignes, ça va se calmer. Mais que dalle, en fait. Donc, c'est toujours comme si c'était la première fois. Et dans l'écriture, là, je suis en train de terminer un livre. Je pensais, bon, c'est quand même les cinquièmes, je sais pas, livres que j'écris, ça va. Mais non, c'est comme si j'écrivais les tout premiers livres. Donc, il n'y a pas d'accumulation, il n'y a pas de capitalisme possible, ni dans l'écriture, ni dans les connaissances philosophiques. Parce que l'intérêt de faire et c'est pour ça que d'ailleurs, comme vous avez dit, peut-être j'ai la tendance à ne pas citer, parce qu'on peut pas capitaliser la connaissance des autres. On est comme des enfants face au monde, en fait, ou comme Adam face au monde. C'est ça les gestes philosophiques. Donc.
On va quitter votre atelier pour aller vers la dernière destination, destination peut-être plus politique, un son que vous avez beaucoup entendu ces derniers jours.
Une barrière de flammes attisée par des vents violents. Triste spectacle du poumon vert de la planette.
Ça fait déjà 40 jours que ça brûle dans mon secteur. C'est pratiquement tous les jours qu'il y a des départs de feu. Il y a beaucoup de fumée, beaucoup de fumée.
Les feux, c'est à cause d'une politique de destruction environnementale, de soutien à l'agro-industrie, d'extension des pâturages, nous dit cette femme.
Emmanuel Ecocha, y a-t-il un lien direct, naturel, évident entre le fait d'enseigner l'écologie à Sciences Po, d'avoir reçu un enseignement agricole, disiez-vous, d'écrire sur la vie des plantes et une forme d'engagement politique au service de l'écologie, une inquiétude partagée là pour le coup par presque toute la planète, sauf certains, de voir l'Amazonie qui brûle et donc le devoir de prendre position pour faire en sorte que les choses changent.
Et donc, il y a un lien direct avec le fait de prendre position. Évidemment, voilà, écrire, c'est ce que j'écris. Et même, j'ai été relativement sollicité ces jours pour écrire autour de l'Amazonie. Et j'ai participé, d'ailleurs, cette année, une des expériences les plus belles que j'ai faites dans ma vie entière, pas juste dans les dernières années, c'était de collaborer à la mise en place d'une expo à la Fondation Cartier autour des arbres, en fait, donc qui s'est révélée être une expo très, très d'actualité. Et d'ailleurs, qui m'a interrogé beaucoup sur ce que ça veut dire être philosophe ou penser par d'autres moyens que par l'écriture. Donc évidemment, c'est un engagement de société où on prend position, où on livre des diagnostics, par exemple, je sais pas, par rapport à l'Amazonie, je pense qu'il faudrait changer de, mais on en parlera peut-être après, il faudrait changer de notre rapport aux arbres ici.
Il nous reste 2 minutes, alors, oui, dites ce que vous voulez dire. Hein.
Non, c'est juste que, par exemple, l'Amazonie ne doit pas non plus devenir un alibi. En fait, il faut commencer à considérer les problèmes. C'est même, on en parle comme un poumon vert. En fait, c'est pas un poumon vert, c'est des milliards d'êtres vivants qui ont les mêmes statuts, la même dignité que votre chat ou votre chien. Donc, le fait que l'Amazonie brûle, ça veut dire qu'il y a, c'est l'équivalent que de 1 milliard de chiens qui sont tués par quelqu'un.
Pour vous, c'est pareil, un arbre, un animal,
c'est
si on fait pas
exactement la même chose. Ils sont intelligents. Ils sont sensibles, donc les problèmes, c'est ça, que jusqu'au moment où on ne reconnaît pas aux arbres cette même dignité, cette même subjectivité qu'on reconnaît à un animal de compagnie, ben les choses continueront à brûler sans qu'on puisse même agir politiquement de manière efficace. Après, il ne faut pas se faire des illusions, prendre des positions, n'est pas faire de la politique. On a eu la tendance à transformer la politique dans un... Voilà, on pense que poster un truc sur Facebook, ça soit un engagement politique, mais pas du tout. Faire de la politique a une signification très très spécifique et très particulière. Il signifie se présenter face aux électeurs, se faire voter et aller au Parlement ou au gouvernement et prendre des mesures. Ça, c'est faire de la politique. Écrire une chose, ça n'a rien à faire avec la politique. C'est juste prendre des positions et
s'engager. Mais c'est une forme d'engagement.
Oui, mais l'engagement, pas politique, c'est un engagement...
Mais c'est pas frustrant si vous êtes si inquiet pour la planète de se dire, bah, je vais écrire des livres, je m'engage, mais...
Mais non, parce qu'il y a des talents différents. Moi, je pourrais pas, et c'est pour ça que c'est ridicule aussi de s'en prendre tous les temps aux hommes et femmes politiques. En fait, il faut une capacité, un talent, une intelligence assez poussée, assez particulière, qui n'est pas à toutes et à tous. Je serais incapable d'exercer un métier politique, mais vraiment complètement incapable. Je suis très heureux du fait qu'il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui font ça pour moi. Parce que, voilà, il faut un physique du rôle que je n'ai pas.
Merci beaucoup Emmanuel Ecoccia d'être venu nous parler de votre travail ce matin. La vie des plantes, la vie sensible, bien dans les choses, aux éditions Bibliothèque Rivage. Et puis, Qu'est-ce que la philosophie, un texte publié aux éditions de Les Rencontres philosophiques de Monaco. On mettra toutes les références en ligne. On se quitte avec une chanson à laquelle vous avez échappé, mais qui était un de vos premiers choix. Alors, on a décidé de finir l'émission avec... C'est Children,
ah, wow,
de Robert Miles.
Ça, c'est l'enfance.
France Culture, les chemins de la philosophie, il est grand temps, plus que temps, de retrouver Géraldine Moustassapois pour son journal de la philo.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, vous nous proposez un anti-manuel de philosophie.
Tout part, Adèle, d'une prise de conscience. Je me suis rendu compte de l'existence de toutes sortes de manuels pour bien vivre. Qu'il s'agisse de livres, de chroniques ou d'articles, les philosophes sont eux aussi convoqués pour nous guider au quotidien, mais surtout pour l'améliorer. Prendre son temps, savoir dire non, appréhender autrement le réel, réapprendre à contempler, cultiver sa fragilité, ne plus viser la perfection, etc. Vous aurez toutes les clés pour mieux vivre, validées et approuvées par les plus grands penseurs.
Est-ce que j'ai raison de percevoir un doute ou un trouble de votre part?
Mais complètement, Adèle, car tout cela me dépasse. Ce qui me dépasse, ce n'est pas de réduire la pensée des philosophes à quelques usages, peut-être simplifiés et tronqués, mais après tout, pourquoi pas? Ceux-là aident bien à vivre et font à leur manière du développement personnel. Non, ce qui me dépasse, c'est de fonctionner uniquement par mantra, conseils et principes. Et pire, ce qui me dépasse, c'est de proposer de déconstruire des injonctions d'urgence, de perfection ou de rentabilité par des injonctions certes contraires, mais des injonctions quand même. Non, je n'ai pas envie de cultiver ma fragilité. Non, je ne veux pas réapprendre à contempler le monde. Non, je ne veux pas positiver l'échec. Et en premier lieu, non, je ne veux pas prendre mon temps, car comme on l'entend partout, il paraît que...
Ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Les filles, le fric, les filles, ouais, ça va trop vite. Ça va trop vite, ça va trop vite, ça va trop vite. Ralenti, respire. Respire, ralenti, respire, respire, j'ai dit ralenti, respire.
respire, ralentis. Si t'as du mal à suivre, viens mettre un écoute pour les petits imbères. C'est le cirque pimbert.
Tout va trop vite, tout s'accélère, tout se fait dans l'urgence et rien ni personne ne peut attendre. C'est le constat que chacun d'entre nous pourrait faire. On a perdu le sens des priorités, notre attention est sans cesse sous pression, le stress est désormais la chose au monde la mieux partagée. Face à cela, fleurissent donc les conseils pour prendre le temps. Prendre son temps, celui qui nous revient, qui nous permet de suspendre le cours des choses et de hiérarchiser les tâches à accomplir. Celui qui nous permet de nous retrouver et de remettre du sens à ce désordre. Mais est-ce que vous ne trouvez pas cela paradoxal ? Comment prendre du temps alors qu'on en manque déjà ? Comment ajouter une chose à faire parmi tout ce que l'on a déjà à faire ? À quel moment de ma journée puis-je intercaler ma suspension du temps ?
Suivre sa respiration. On pense souvent qu'on n'a pas grand-chose à retirer et à apprendre d'un phénomène aussi familier, ordinaire et automatique que la respiration. Quelle erreur ! Il y a de grands bénéfices à prendre conscience de son souffle, conscience de sa présence, sans chercher à le modifier.
Je vous sens pas très réceptive à Christophe Randerich.
Pas du tout à la méditation. Mais voici ma question. À quel moment de la journée vais-je pouvoir prendre le temps de suivre ma respiration? À écouter les spécialistes de la méditation, souffler reviendrait littéralement à souffler. Et le faire provoquerait un changement, non pas dans le déroulé de ma journée, mais dans la manière de l'appréhender. Tout serait d'ailleurs une question de manière, de regard, d'attitude. Ne changez pas le monde et sa vitesse, changez plutôt votre rapport au monde et votre tempo. On a souvent tendance ainsi à opposer le temps du monde qui s'accélère à notre temporalité subjective. L'un serait objectif, non modifiable, implacable, quand l'autre serait malléable, plastique. À nous donc de nous soumettre à l'accélération infernale ou de nous en émanciper. À nous de faire en sorte de suivre le rythme ou de le freiner, de souffler ou pas. Mais là est le problème, c'est encore une chose à faire. Encore une décision à prendre, encore une case à cocher, car il faut le dire, prendre son temps, résister au flot du monde, respirer n'est pas seulement dur, mais entretient l'illusion qu'on pourrait dominer la vitesse et le temps du monde.
Mais enfin, Dina, ce n'est qu'un lapin avec une veste et une montre.
Oh, fermez, moustache, je suis en retard,
C'est très curieux, ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur!
En retard, j'ai rendez-vous quelque part, je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.
Il faut que ce soit très important, une fête ou quelque chose de ce genre. Monsieur Lapin, attendez-moi!
Non, quelqu'un m'attend! Vraiment, c'est important, je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard!
Contre l'injonction à prendre son temps ou à le suivre parfaitement, voici donc ce que je propose, une sorte de troisième voie, être en retard. Ni suspension du temps, ni tempo millimétré, il faudrait développer toute une philosophie du retard, car seul le retard permet de tout faire, tout en étirant le temps. Être en retard signifie bien que l'on a pris le temps, qu'on l'a étiré, qu'on en a profité, mais il ne signifie pas qu'on est encore dans l'illusion de l'arrêter. Quand vous êtes en retard, vous regardez le temps filer, vous échappez, mais vous n'abdiquez pas, vous l'éprouvez. Et même mieux, vous lui faites un pied de nez et vous vous accordez le droit de l'allonger.
Vous serez là lundi quand même à l'heure ou faut vous attendre après?
Je serai là sans faute, Adèle. À l'heure, et j'ai de la chance, ma chronique est à la fin de l'émission, ça me laisse le temps d'arriver.
Parfait, à lundi Géraldine, et d'ici là, on peut prendre le temps de réécouter votre chronique et ainsi se mettre en retard à son prochain rendez-vous. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Manon de Lasselle pour l'émission d'aujourd'hui, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Jules Barbier, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui a réalisé cette série d'émissions cette semaine, Dalia a quitté la prise de son aujourd'hui, Thibaut de Montalembert à la lecture des textes cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série des Chemins. On vous proposera une philosophie de la transition. Y a-t-il une identité trans ? Écologie, avec ou sans transition, la politique est-elle l'art de s'adapter? Et enfin, l'art du changement, l'art d'aller, de venir et de devenir avec Bergson. Ça, ce sera jeudi prochain. Tout un programme à retrouver en ligne sur le site de l'émission. Vous pourrez également réécouter cette émission sur le même site. Vous pouvez l'écouter en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins de la Philosophie vous donne également rendez-vous sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram. On attend vos remarques et vos commentaires. À lundi prochain. D'ici là, passez une bonne journée sur France Culture et on se retrouve lundi à 10h.